Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. On va faire la version en anglais aujourd'hui, en américain. Super Laser Punch, où on parle de trucs souvent Marvel et parfois d'autres trucs aussi, comme par exemple c'est le cas aujourd'hui puisqu'on parle de la meilleure chose que Star Wars ait jamais produit, y compris dans les séries, les films. Et on parle donc de Andor, la série qui vient de se terminer sur Disney+, après son 12e épisode. Pour m'aider à confirmer cette affirmation pas du tout controversée, j'ai Johan qui est là avec moi, en forme, pour une fois.
Pas de maladie, en super pas de... forme.
Ouais,
comme si je venais d'avoir vu le meilleur Star Wars que Star Wars n'ait jamais produit.
Ben on verra à la fin si on est vraiment d'accord là-dessus, parce que maintenant... Ça commençait très bien, la série, sur les 6-9 premiers épisodes, donc divisé en 4 arcs de 3 épisodes. Et là, on a eu les derniers, le dernier arc qui s'est fini il y a quelques jours. Et donc, on va voir si c'est confirmé ou si ça a plongé ou si c'est juste moyen. Et donc, c'est plus la meilleure chose que Star Wars ait jamais produit. On va avoir la réponse dans un instant. Ça te va si on fait... D'abord, petite review rapide de chacun des 3 derniers épisodes. Puis après, on revient sur la série dans son ensemble.
Ça marche.
Très bien. Eh bien, écoute, épisode 10, One Way Out, qui est celui où les prisonniers de... comment elle s'appelle cette planète? Je ne sais plus. La planète où on fabrique des morceaux de trucs... Ils réussissent enfin à s'évader grâce à la rébellion organisée par Cassian. Donc, c'est vraiment un prison break épisode, quoi. Il y a Cassian et son pote... comment il s'appelle?
Tu sais,
pardon?
Kino. Le chef
oui,
de brigade, Kino.
Ouais. C'est ça, Kino, le chef de brigade, qui organise un truc. Et ils réussissent à prendre le dessus sur les forces impériales dans ce moment où ils avaient une opportunité et réussissent à s'échapper avec cette dernière scène assez poignante où on se rend compte que Kino ne pourra pas s'échapper parce qu'il ne sait pas nager. Quand même couillon quand on est sur une planète de
ouais, je savais pas en fait, parce que du coup on voit pas, mais est-ce qu'il reste ou est-ce que du coup il se fait emporter par les copains, enfin c'est...
Ah bah on sait pas justement, ça c'est un truc qui est laissé ouvert. Ils se sont dit en fait que comment il s'appelle
Andy Serkis.
Voilà, qu'ils ont trouvé un rôle où il était en fait vachement bon, il pouvait jouer. Donc,
ils l'ont laissé en prison. Ah, t'es super bien en prisonnier.
Ils l'ont pas tué, tu vois. Ils ont pas fait le héros qui se sacrifie l'évasion ou qui saute et qui n'arrive pas et on le voit couler parce qu'il sait pas nager ou j'en sais rien. Ils se sont dit bon, on le garde pour le cas où, on sait jamais. Ça se trouve, il s'est échappé, on le reverra ailleurs.
Ça se trouve, on ne saura jamais.
Et ça se trouve, on ne saura jamais. Ça dépend des contrats. Est-ce que Andy Serkis va dire « Mais j'étais Gollum, moi. Vous devez me payer des milliards de dollars.
» Mais je trouve cette fin, pour lui, pour ce personnage, assez, assez bien, en fait.
Ah bah complètement, oui.
Déjà ce moment de réalisation, il est assez, assez poignant, assez fort. En plus, en parallèle, tu as le visuel, tu sais, la vue de haut avec tous les prisonniers qui sont en train de nager. Je trouve que c'est l'imagerie est encore une fois superbe et lui qui reste bloqué là et du coup avec le dernier regard à Cassian et je trouve que c'est une super conclusion en fait je m'en satisferais parfaitement quoi si on n'avait plus de nouvelles ça serait bien comme ça.
C'est absolument, absolument parfait, effectivement. Moi, je serais très intéressé de voir le personnage développé dans une autre série ou quelque chose à lui, ou qu'il réapparaisse quelque part, parce que maintenant, on a un attachement au personnage et il est suffisamment développé pour qu'on l'aime bien, mais en même temps, c'est suffisamment en surface, il n'y a pas eu énormément de choses sur lui, pour qu'on puisse explorer plus. Mais bon, voilà, c'est l'un des personnages du truc. Et effectivement, Andy Serkis qui confirme ce qu'on disait aux épisodes précédents, on ne savait pas qu'il savait jouer, en fait, parce qu'il n'a jamais été très, très bon. Mais ouais. Bon, donc, pourquoi pas. À part ça, oui, donc l'épisode dans son ensemble, est-ce qu'il t'a plu ? Est-ce qu'il était... Est-ce qu'il
oui, énormément.
Aux promesses de son...
Énormément. Alors, moi, j'étais resté sur un sentiment de prison prête à exploser. Donc, je m'attendais à un truc un peu plus massif avec, justement, les autres sections, qu'on ait vraiment un sentiment de foule, de milliers de prisonniers, etc. Bon, on est quand même très focalisé sur la brigade en question. Mais voilà.
On libère les autres aussi, hein, mais c'est vrai qu'on
oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est ultra efficace. Hein. Donc, t'as à peu près tout dans cet épisode. Hein. T'as le plan pour s'échapper, donc qui va finir sur de l'action avec des moments assez forts, justement, avec le jeu au niveau des sols électrifiés. Le saut de la foi d'oser toucher ce sol.
Ouais.
Pensant qu'il est désactivé, etc. Puis évidemment le discours de Kino à l'interphone à destination des autres, etc. Et puis même sur l'aspect justement rébellion, parce que du coup la série parle évidemment de la construction de la rébellion à l'échelle galactique, mais du coup cette idée de tous ces gens-là qui vont s'échapper et qui vont aller après raconter ce qui s'est passé, raconter ce qu'ils étaient en train de construire probablement. Enfin, je trouve que c'est un de mes préférés du coup.
Ouais.
Et même si j'en ai beaucoup des préférés dans cette série, je trouve super efficace, un peu focalisé du coup sur cette partie-là, un peu moins, mais il y a quand même du développement sur les autres arcs narratifs. Parallèle, mais là on est vraiment un petit peu cloîtré avec ces prisonniers là et ça m'a pas lâché quoi. J'ai tout le long assez tenu
ouais. Et on est vraiment dans le, je trouve que le parallèle un peu lointain en même temps assez clair avec les camps de travail, camps de concentration est quand même reste très fort. Et du coup, oui, on peut, quand tu disais, ils vont s'échapper, ils vont parler, ils vont raconter, comme on les entend le dire ensuite. Et donc, ça va faire partie de ce qui va construire la rébellion, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'évasion. Mais par contre, il y a un autre élément dans cet épisode. Moi, je croyais que c'était au suivant. Il y a aussi... La rencontre entre Luthen et son informateur au sein du ISB, qui est un petit peu la Stasi de l'Empire, qui est aussi un moment très très fort, peut-être même encore plus fort, où ils se confrontent.
Le monologue. Et
le monologue où il lui dit, Luthen lui dit, mais tu dois y rester, t'as pas le choix, tu dois rester pour toujours, maintenant t'es prisonnier. Et où il explique... que lui est également enfermé dans son
ce que lui a sacrifié parce que du coup on lui reproche de manipuler les autres et de rester toujours à l'abri, etc. Et il va répondre justement sur tout ce que lui il sacrifie pour la cause et c'est un certain shift hein, dans la perception du personnage et ce monologue là est assez intense et pareil hein, très très mémorable quoi.
C'est une idée philosophique qui est vraiment intéressante. Je ne sais pas à quel point c'est... Enfin, c'est à la fois très fort et à la fois ça peut être utilisé pour justifier des choses injustifiables, ou c'est peut-être le principe du truc, mais l'idée, effectivement, qu'une personne... c'est marrant parce que je suis en train de lire The Stormlight Archive de Brandon Sanderson et il y a un personnage qui est un petit peu dans cette... Il y a un petit peu de ça dans le livre aussi, mais... Pardon. Et cette idée qu'il y a un personnage qui doit prendre sur lui les péchés impardonnables et que c'est sa prison et que ça l'enferme pour qu'une bonne cause réussisse, C'est une idée qui est vraiment intéressante. Et donc, c'est ce qu'il expose, Lufen, et qu'il dit, effectivement, ben moi, je prends, je sacrifie mon humanité, mon...
Et en même temps, alors je jump un petit peu sur la suite, mais il va partager un peu ce fardeau après avec So, ouais. Là-dessus.
Tout à fait,
un certain choix, quoi.
Et c'est le genre de choses qui rend les personnages hyper intéressants. C'est pour ce genre de choses que je dis, c'est vraiment une série qui fait au minimum le meilleur de Star Wars, et peut-être, je veux dire au minimum parmi les meilleurs trucs de Star Wars, et peut-être le meilleur, parce que c'est ça qui est intéressant. L'histoire des magiciens de l'espace avec leurs épées qui brillent, c'est très cool, et j'adore. Mais ça, c'est le genre de trucs qui sont intéressants que si tu as aussi des personnages qui ont qui sont dans des situations compliquées, qui ont des personnalités développées, etc., etc. Et là, on est effectivement pile dans ce contexte et dans ce cadre avec Lufen. Donc, c'est la deuxième partie de l'épisode. Je ne sais plus s'il y a un autre truc. C'est là qu'on voit, en fait... Mon Mothma qui rencontre le mafieux qui lui propose en fait de prendre sa fille en mariage contre son financement de la rébellion, en gros. Et là aussi, c'est un choix impossible et elle refuse. Elle refuse au début, en tout cas, puisqu'on voit que ça va changer à la fin, mais elle refuse et c'est... aussi un truc où on voit que tout le monde doit sacrifier des choses, quoi. Donc,
c'est ça, c'est toujours sur la thématique de qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour la cause, entre guillemets. Effectivement, alors, moi, c'est un arc que j'ai dû revenir dessus après parce que je n'avais pas forcément bien compris tous les tenants, tu sais, au niveau financier, etc. Effectivement, il y a l'histoire avec sa fille. Du coup, c'est en fait, j'avais pas forcément compris tout de suite qu'elle-même avait été du coup était dans un mariage arrangé avec son mari.
Ouais. Oui, il parle des traditions de leur planète ou de leur culture.
Un truc qu'elle vit déjà super mal, et c'est d'autant plus déchirant pour elle de devoir à nouveau l'imposer ça après à sa fille.
Oui, bien sûr, c'est sacrifier. Là, en l'occurrence, c'est la pire chose que tu puisses faire, sacrifier ta fille. En même temps, comme on le voit plus tard, la fille, elle a l'air plutôt pour, donc ça facilite peut-être la décision. Mais oui, c'est évidemment un moment, enfin plus qu'un moment, un choix hyper compliqué. Et vivre avec ensuite, c'est pile dans ce cadre des personnes qui se construisent avec leur choix et leurs difficultés, quoi. Onzième épisode, qui s'appelle Daughter of Ferrix, Daughter au singulier, pas comme l'organisation qui est The Daughters of Ferrix. Donc là, on parle de Marva. Marva, la mère de Cassian, qui meurt sur Ferrix. Et qui, du coup, provoque... le plan de l'ISB, de l'Empire, pour essayer d'attraper Cassian en se disant « sa mère est morte, il va revenir », quoi, parce qu'eux, ils ne savaient même pas qu'il était enfermé dans la prison, de l'eau, la prison de la planète. Il y a de la Terre aussi. On n'a même pas parlé du fait qu'ils essayent... bêtement de s'échapper vers le vaisseau et ils se font attraper par les aliens qui les laissent partir. Ça, c'était...
Ouais, la scène est un peu étrange. Toi, t'as pas eu un sentiment un petit peu étrange à l'issue de cette scène où justement ils se font capturer, ils étaient prêts à les livrer et en deux secondes, en fait, non, c'est bon, vous pouvez y aller.
En fait, non, je suis d'accord, j'avais pas bien compris, mais en fait, le système, le piège, c'est un système automatique, tu vois, et ils les regardent courir et il y a leur système qui les attrape automatiquement. Et donc, ils disent « Ah ouais, les petits rats, les petits machins, je sais pas quoi, vous vous êtes échappés de l'Empire. » Et ils commencent à expliquer qu'ils détestent tout le monde, et surtout l'Empire. Et donc, c'est bon, on s'en fout, on vous libère. Mais tu vois, c'est pas qu'ils les ont capturés et puis ils les laissent partir, c'est que le système était automatique et ils les regardent simplement. « Mais vous faites quoi, vous tu vois ?»
Donc, bref. Donc, c'était juste pour montrer que la haine de l'Empire...
C'est ça, ouais.
Ouais, et partager.
Et donc, on a les, tout le monde qui apprend, parce qu'ils ont tous des espions sur Ferris, qui apprend, parce que clairement, Cassian Andor est l'homme le plus recherché de la galaxie et le plus important de la galaxie. Donc, tout le monde est au courant que Marva est morte et donc ils vont organiser le piège sur Ferris. Mon Mothma voit que sa fille fait les cérémonies et les trucs, s'intéresse à la culture de ces Chandrila, leur planète, enfin leur culture, et fait les prières de leur planète et tout. Elle est un petit peu désespérée, mais bon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ? On a la scène, la fameuse que tu évoquais, avec Luthen qui va voir Saw Gerrera, où Saw lui dit « Ok, je vais t'aider pour l'attaque de Krieger, c'est bon, on va y aller. » Et Luthen lui dit « Bah non, il faut pas. » Et on va laisser Krieger se faire attraper et ses soldats mourir. Et du coup, il met sur Saw Gerrera le poids de cette décision qu'il a fait lui-même. Bon. Et ensuite, Luthen s'échappe très habilement d'une patrouille impériale. C'est vraiment... Hein, il déconne pas, hein, Luthen.
Ah ouais. Là, c'est classe. Hein. Ce passage-là, grand badass. Quoi. Je m'attendais pas à voir un truc aussi d'aussi grande envergure, c'est un, je veux dire, le vaisseau qui est détruit, puis avec l'espèce de sabre laser qui dépasse du vaisseau,
ouais, c'est ça,
machin, etc. J'étais un peu pris de court là. Et, ouais, ultra. On
déconne pas avec Luthen. En même temps, tu te dis, pour être un chef de la rébellion en construction qui survit tout le temps, partout, avec tout ce qu'il fait, tu comprends qu'il est aussi... Ouais. Il doit être un peu badass, forcément. Il sait se défendre, il sait faire face aux situations difficiles, donc ça se justifie. Et c'est à la fin, en fait, de cet épisode qu'il y a la scène où il s'échappe des aliens, Cassian et son pote, et qu'ils se séparent ensuite pour aller... comment ? Parce que Cassian a appris que sa mère est morte et donc il décide d'aller sur Ferrix, de retourner sur Ferrix, là où son pote dit qu'il veut montrer au monde ce que fait l'Empire avec les prisonniers, etc. Donc, 11e épisode, un petit peu de transition.
Ouais.
Qu'as-tu pensé ?
Ouais, je repensais à une scène de Mon où elle est dans la voiture avec... avec son mari, où elle parle de jeux d'argent, enfin de...
Ah, c'est la dernière, celle-là. C'est le dernier épisode.
Ok, d'accord. Ouais.
C'est pour, c'est pour confuse les gens qui regardent ses comptes à l'ISB, et ça marche, visiblement. Et du coup, oui, donc l'épisode 11, je ne sais pas s'il y a énormément de choses. La scène la plus forte, c'est celle avec Luthen et Saw Gerrera, je pense. Mais à part ça, l'épisode n'est pas complètement...
Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je m'en rends compte, mais c'est vrai que sur le coup, moi, j'ai pas vu ça passer. Enfin, j'ai pas vu.
Oh, il était bien, mais c'est pas qu'il y a des moments marquants, je crois.
Oui, ça doit être ça.
Bon, à part tous les moments dont on a parlé, la scène avec Luthen et Saw, la scène où Luthen s'échappe et la scène où ils sont capturés par les pêcheurs aliens, là. Donc, ça fait quand même quelques trucs. Mais oui, c'est quelques scènes de transition, on va dire. Du coup, on peut peut-être passer au dernier épisode, Rick's Road, l'épisode 12, où on a tout qui se... concrétise et en même temps, on pourra en parler, mais... En gros, on a l'enterrement, la cérémonie de Marva, avec les habitants de Ferrix qui font face finalement aux agents de l'ISB et aux soldats impériaux. Et c'est l'essentiel, c'est le cœur de l'épisode. On a aussi quelques trucs avec la scène où Mon Mothma amène sa fille... pour se marier avec le fils de Davos Skuldun. C'est bien un nom d'escroc, ça, Davos Skuldun. Skuldun, c'est un petit peu. Et du coup, on a ça, mais surtout, c'est vraiment effectivement ce qui se passe sur Ferrix avec l'enterrement, tout ce qui se passe avant, le discours de Marva qui galvanise la foule. Et Cassian qui réussit à sauver Bix de sa prison. Décidément, c'est sa spécialité de sortir les gens de prison. Et je crois que voilà, c'est à peu près tout. On a tout ce qui se passe dans la bataille qui s'ensuit, dont on peut parler tout de suite. Mais
ouais, donc épisode que j'ai trouvé un petit peu mi-urbain, hein, même carrément miroir à l'épisode 2, sur justement bah, Férix avec le sonneur qui frappe son morceau de métal qui résonne. Une grosse place à la musique dans l'épisode avec les habitants qui sont avec des instruments là pour la cérémonie. J'ai trouvé ça super avec qui se finit sur le monologue
de Marva,
ouais. Qui encore une fois un super monologue qui même moi m'a galvanisé quoi.
t'as voulu aller prendre les armes pour te battre contre l'Empire, c'est ça?
Armes. Exactement.
Tu t'es levé genre de ton canapé, ta femme te regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'y vais. Ouais.
Et voilà. Et puis effectivement, là, alors moi j'avais été quand même. Donc ça c'est sur la partie que j'ai vraiment adoré cet épisode, hein, qui va être aussi un de mes préférés de toute la série. Et pourtant, en fait, voilà, c'est là où on arrive au moment où je dis que je ne savais pas du tout qu'il y avait une saison 2.
Ouais.
Et où je m'attendais à ce que, pour le coup, tout se clôture. Et du coup, la partie Karn, comment elle s'appelle, Dedra, et aussi les autres rebelles. C'est comment elle s'appelle, là, celle qui est restée sur Férix pour espionner le retour de...
Ah, les deux, la copine Cynta.
Ouais, les deux. Ouais, ah, voilà, c'est ça, Cynta. Voilà, tout ça, je m'attendais à ce qu'il y ait eu un semblant de conclusion pour ces personnages-là, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose avec eux. Et finalement, c'est assez en retenue. Et vraiment, je me suis demandé si j'avais pas loupé un truc. Et c'est en cherchant ça que je me suis rendu compte qu'il allait y avoir une saison 2.
Ouais.
Voilà.
Bah on peut revenir sur cet aspect, effectivement, mais c'est difficile de le séparer de l'épisode lui-même. Pour l'épisode, je trouve que... alors, Cyril, on peut évacuer sa partie, donc le type frustré qui travaille dans l'administration. Ça a pas amené à quelque chose d'incroyable, mais je trouve que, bon, ça va. Il a sauvé la nana qu'il rejetait, et clairement, elle pensait qu'elle allait mourir, donc... c'était un moment relativement intéressant aussi. Et à part ça, Bix qui se fait extraire de la prison, j'ai trouvé que c'était pas mal foutu parce que c'est pas genre « Ah ouais, ok, super, merci Cassienne, on y va !» C'est pas non plus un truc de génie, mais elle est hyper affectée par sa torture. Et donc elle dit « Non, il faut pas les énerver, ils vont s'énerver. » Tu vois, elle veut pas partir à la limite. Et puis elle s'envole dans le vaisseau avec les autres rebelles. Luthen, qui pensait maîtriser la situation ici et dire ok, on va arriver, on va assassiner Cassian et on va repartir, qui est pour le coup quand il s'échappe du bordel de la confrontation, de ce début de rébellion qui va être maté dans la violence évidemment, il est tu sens qu'il n'est pas bien, quoi. Et genre, ah merde, là, ça, en fait, j'ai peut-être eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Je me suis mis en danger. Et on a ce moment où Cassian est dans son vaisseau quand il y revient. Et c'est là qu'il rejoint vraiment la rébellion, quoi. C'est là qu'il se dit, OK, ça suffit, il faut faire quelque chose. Et évidemment, on a cet élément hyper important et exaltant où, suite au discours de Marva, les habitants de Férix ne veulent plus du règne. Et c'est vraiment exaltant parce que c'est vrai que ce qu'elle dit résonne. C'est qu'au début, ils venaient et puis ils prenaient certains trucs et maintenant, ils sont là et ils restent. Et ils sont là. Et du coup, quand on était endormi, on ignorait. Ça fait un petit peu, d'abord ils sont venus pour les homosexuels et puis ils sont venus pour les juifs et puis maintenant ils viennent pour moi, quoi. Tu vois, c'est ce genre de discours encore. Et donc, tu te dis, on ne peut plus l'ignorer, quoi. On a fermé les yeux pendant trop longtemps. Évidemment, même si c'est facile d'ici de dire, du coup, on va aller s'empaler sur les... sur les lances de l'ennemi. Bon, c'est le truc, évidemment, qui est compliqué. Mais bref, ce combat qui est la cocotte qui explose, je trouve qu'ils ont fait bien avec ce qu'ils avaient. Tu sens qu'ils n'avaient pas des centaines de personnes pour faire une rébellion massive. Ils sont quelques dizaines, donc c'est un petit peu cheap, mais ça passe. Et je trouve que ça accomplit ce que ça devait accomplir. Donc, dans l'ensemble, je trouve bien cet épisode, même si, vu le début de la série, je t'avoue que j'espérais, comme toi, quelque chose d'un petit peu plus éclatant, on va dire. C'est juste bien, c'est bon. On n'a pas, comme dans les arcs précédents, une conclusion, surtout dans les deux premiers, une conclusion qui est vraiment satisfaisante à cet arc.
Ouais, alors pour moi, pour la partie purement Cassian, je trouvais ça vraiment. Enfin, là pour le coup, je trouve ça parfait. Vraiment, cet arc-là, Cassian Lucène, incroyable, sur cette transformation de Cassian, de ce passage de mercenaire finalement à
rebelle.
À rebelle convaincu, vraiment convaincu, quoi. Où il a dû passer par. La mort de sa mère, et puis aussi je pense que le texte écrit par comment il s'appelait là, le jeune,
ouais, que j'ai oublié, qui fin. Est super bien écrit, franchement, bah ouais, c'est ouais, je me souviens plus comment il s'appelle,
et Caris Némic, voilà, je l'ai sous les yeux, je pense que c'est le cœur de cette saison. Finalement, qu'il y ait des arcs qui soient gardés pour des saisons 2, etc. C'est...
Encore plus loin sur Caris Némic, je ne sais pas si on en a déjà parlé ailleurs dans Star Wars, mais c'est le philosophe de la rébellion, tu vois. C'est carrément, il écrit un manifeste qui devient le cœur de l'Alliance. C'est un truc qui est hyper important et qui est bien distillé dans la série, mais qui... on imagine, pourrait être beaucoup plus important que juste ce type qui est mort à Aldani, et son texte peut rester et devenir un manifeste important, quoi.
Et ouais, comme tu disais, le texte est super bien écrit, quoi. Ils ont pas fait les choses à moitié, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. On a parlé pas mal de... Il y a pas mal de monologues comme ça. Il y a celui de Marva, celui de Némic, Lucène. Je sais plus si j'en ai bien. Eh oui, et évidemment... celui d'Andy Serkis, j'ai oublié son nom, de personnage. Mais du coup, dans ces trois derniers épisodes, on a ça, en fait. Et à chaque fois, c'est quand même des statements sur la résistance, sur la rébellion, qui sont à chaque fois super bien écrits et même, voire mémorables. Et ça fait partie des choses que je trouve très fort, en fait, dans cette série-là. Mm. Et ce n'est pas des choses qu'on a eues ailleurs. Enfin, je dis ça, mais moi, j'ai pas vu toutes les petites séries, enfin les séries animées. J'ai pas lu non plus. Donc je ne connais que finalement le canon des films plus les séries Disney+. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu moi dans Star Wars et qui je ne savais pas qu'il pouvait manquer. Et c'est super solide, quoi.
C'est quand même incroyable que Star Wars, qui a 20 ans, n'ait jamais fait ça. Alors que c'est une histoire sur la rébellion contre un empire. Alors, ils ont fait d'autres aspects, mais c'est très pop culture, tu vois. C'est très... Je dirais que ça élève... comment dire ? Star Wars, c'est super cool. J'aime beaucoup. Mais c'est très cool dans un sens... Bah, c'est marrant, quoi. C'est mignon. T'as un bon lore cool. Les chevaliers Jedi, ils sont classe. Ils sont badass, etc. Donc, c'est cool dans ce sens-là. Mais c'est pas vraiment profond. C'est pas hyper intelligent. C'est pas hyper bien écrit. Ça donne une profondeur qui aurait... Tu vois, si la prochaine trilogie est sur ce ton, ça serait parfait. Ça serait pas forcément...
Ouais.
Exactement comme ça, mais je veux dire, si c'est ce genre d'approche, c'est un petit peu la différence entre, avec moins de contraste peut-être, mais et j'y pense maintenant parce que c'est ça que j'ai à l'esprit, parce que ça vient de sortir, mais entre les anciens God of War et les nouveaux. Tu vois, c'est quelque chose qui a grandi, qui est adulte, qui traite les choses différemment, et les premiers God of War, ils étaient très cool. Mais bon, on va pas dire que c'est quelque chose de très profond, de très intelligent, ou de très... Les nouveaux, ça a plus de matière, plus de réflexion. Là, c'est un petit peu la même chose. Les premiers Star Wars et même enfin, toutes les trilogies, il y a des trucs cool. Mais ça ne va pas chercher, ça ne va pas très loin.
Moi, l'analogie que j'avais justement en y pensant, c'était X-Men, tu sais. On a eu des X-Men et puis tout à coup, tu as Logan qui sort, quoi. Tu vois, c'est
t'as le quoi, pardon ?
Logan, le film.
Ah oui,
le film
ouais,
Logan,
un petit peu, ouais.
Voilà, qui prend le temps de faire les choses bien, sérieusement, et avec justement de la profondeur. Et
complètement.
Un truc un peu moins feu d'artifice. Voilà.
C'est difficile à expliquer. Ça reste de la pop culture, évidemment. Et ça reste. C'est pas des traités de philosophie. Mais il y a quelque chose en plus. Là encore, dans le MCU, il y a parfois, c'est peut-être un petit peu moins fort, mais il y a parfois des choses intéressantes, des répliques qui sont bien dites, des trucs qui te mettent une mini-réflexion sur quelque chose d'intéressant. Et puis, il y en a où c'est juste complètement n'importe quoi du début à la fin. Et là, oui, on sent le même type de contraste. Donc, réussite pour Cassian. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Je crois qu'on a couvert un petit peu tout l'épisode 12. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Enfin, on pourrait en parler plus longtemps, mais... Du coup, on a commencé à en parler, la série dans son ensemble. Est-ce que c'est la meilleure chose qui est produite ? On va dire, on va se limiter parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'autres choses, mais la meilleure chose live action avec des vrais acteurs qui a été produite de Star Wars ou pas ?
Sans problème pour moi.
Ah, très bien. Ouais. On est sur la même longueur, la même fréquence de lumière de sabre laser. On est, comment, rose bonbon, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est... Enfin, oui, moi, je suis d'accord. C'est très au-dessus de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y avait des trucs, comme je le disais, qui étaient très cool parce que c'était fun et badass et ce genre de choses. Mais oui, on est... Clairement au-dessus du lot, là, avec Cassian. Oui. Je me demande si, du coup, en revoyant Rogue One, on va considérer Cassian différemment, ou si il va paraître, je veux dire, mieux, plus profond et plus intéressant, et puis on va voir des choses dans la performance de Diego Luna qu'on n'avait pas vu avant, ou alors, est-ce que, pour le coup, il va paraître un petit peu ridicule maintenant qu'on a sa vraie profondeur dans la série? Et que dans Rogue One, il va paraître un peu accessoire, ou je sais pas, ça va être intéressant. Je pense que je regarderai Rogue One une nouvelle fois quand j'aurai vu la deuxième saison. Parce que visiblement, il y en a deux des saisons et ça sera terminé. Je crois que c'est ça qui est prévu. Peut-être qu'il y a rallongeons, mais je crois que c'est ça. Bah, au bout d'un moment, il va les avoir, les plans, tu vois. Il va plus. il va pas continuer jusqu'au début de Rogue One, encore que peut-être, pourquoi pas.
On va refaire Rogue One avec l'équipe de Andorre. Allez, ouais. Je suis parti. Hein. Ouais. Non, bah, j'ai essayé de le revoir déjà, Rogue One, et ça n'a pas plus marché. Quoi,
ouais, d'accord. Toi, tu fais partie des gens qui n'adorent pas Rogue One. Hein.
Ouais. Alors, tout en pensant que ça reste l'un des tout meilleurs live action depuis très longtemps, donc, enfin, Star Wars. Ouais. Du coup, voilà, c'est... En fait, c'est le film à l'époque où je m'étais fait la réflexion, un truc du genre, ça y est, il y a maintenant plus de films Star Wars que j'aime pas trop que de films que j'aime bien.
Ouais.
Et est-ce que je suis encore un fan et tout ? C'est le moment du questionnement.
suis-je encore un fan le moment du doute.
Mais j'essaierai de lui redonner sa chance. Je pense que de toute façon, c'est des choses que je reverrai avec ma fille à un moment donné.
Ouais. Au bout d'un moment, tu finiras bien par l'aimer. C'est sur un malentendu, t'es pas très en forme, tu comprends pas bien ce qui se passe à l'écran, tu dis « Oh, il est super !» Mais généralement, les gens aiment beaucoup Rogue One. Moi, je suis aussi sur ton... Je trouve qu'il est sympa, mais pas incroyable, et puis que, justement, il y a beaucoup de... Il y a des trucs cool, mais il y a des trucs aussi un petit peu faciles. Mais bon, du coup, pour revenir à nos moutons, la série, oui, je la trouve super bien, avec ce bémol que tu as évoqué. C'est une série qui se finit en... Même pas avec... je sais pas, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de conclusion super solide pour... Même, bon, Cassian, c'est bien, mais c'est pas hyper poignant, c'est pas hyper... Tu vois, tu sens pas que c'est l'envolée à la fin de l'épisode et à la fin de la saison, parce que ils ont la saison 2 qui va arriver après. Et moi, je l'avais entendu il y a quelques semaines, au début de la série, je pensais que c'était une seule saison. Mais même si je le savais, j'ai trouvé que la saison était... comment dire, c'était vraiment un dernier épisode pour amener, pour préparer à la saison 2. Donc, il y a un tout petit sentiment de... bon, j'aurais aimé qu'on soit un petit peu plus définitif sur certains trucs quand même. Je lui pardonne, hein, mais ça se ressent.
Ouais, il y a un autre reproche qu'on peut faire, c'est que ça reste une série qui est assez longue, qui prend parfois son temps à raison et parfois pas forcément.
Ah ouais ?
Et je pense que peut-être que revoir le format en mode plutôt téléfilm, c'est d'avoir 3 ou 4 téléfilms. Parce que finalement, moi, je les ai regardés comme ça aussi. C'est peut-être ma faute. Mmh. Hein, moi, je les ai regardés par groupe de 3 à chaque fois. Donc, ça fait quand même quasiment 3 heures à chaque fois.
Ouais.
Et je me suis demandé si ça n'aurait pas mérité plutôt des téléfilms avec des arcs du coup un peu plus marqués. Je pense que ça aurait peut-être plus convaincu les gens, je sais pas. En tout cas, moi j'ai toujours l'impression, je reste sur cette impression que les gens n'ont pas regardé la série. On est un peu tout seul à en parler ou pas loin. Je vois quelques temps, enfin, parfois je vois des gens dire hey, mais vous devrez regarder ça, personne n'en parle, etc. Effectivement. Voilà, j'espère que c'est un projet viable et pour Disney et que ce genre d'approche va quand même. Faire écho et peut-être atteindre les films, en tout cas montrer qu'on peut faire peut-être autre chose que montrer bébé Yoda et tout ouais. ça, même
c'est
si
du fanservice,
je
quoi.
Pense que c'est cool, ouais, je pense que c'est cool, hein. Je pense qu'il faut des Mandalorian, il faut et avoir ce genre de truc à côté, je trouve que c'est du mieux pour tout parce que ça va nourrir d'autres projets, même qui peuvent être super popcorn et tout ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est un vrai apport en fait à toute la saga. Quoi. J'espère qu'on va continuer à avoir des projets comme ça régulièrement. Ouais.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Le fanservice, c'est pas un problème. Mmh. Mais il faut que ça soit peut-être un poil plus subtil, un petit peu moins gratuit, même si par essence, le fanservice, c'est un peu gratuit. Mais clairement, ils en ont abusé sur les premières années de Disney+. Oui, je suis d'accord avec toi. J'espère que même si la série ne semble pas avoir complètement conquis le public, ce qui est vraiment dommage, j'espère que ça va leur. Ils vont en tirer certaines leçons, quoi, chez Disney et chez Star Wars, chez Lucas. Donc, on est complètement alignés sur cette appréciation de la série. Oui, pardon, vas-y.
Non, vas-y, je te laisse poursuivre.
Non,
ça.
J'allais juste dire pour la saison 2, je ne sais pas quand elle va arriver, mais je vais l'attendre avec grande impatience, du coup.
Donc moi, j'allais dire qu'il y a une autre série Star Wars là, qui est sortie il y a 3 semaines, un peu incognito. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, je n'avais pas du tout vu que c'était là. C'est Tales of Jedi, c'est une série d'animation un peu dans le style justement Clone Wars. Là, et j'ai regardé 2 épisodes. Du coup, ça parle de... Moi, elle s'appelle la Jedi, qu'on a déjà vu aussi.
Comment elle s'appelle? Akena, Ashoka, Sato? Ashoka,
Sato. Ashoka, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et aussi, du coup, il y a des histoires aussi sur le Jedi Doku.
Ouais.
Et c'est très bien.
Ça fait peur. Alors, c'est bien?
Le premier épisode, donc, qui est centré sur Ashoka, bon, ça, c'est des trucs très courts. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps.
Mmh.
Ça en passe en plus. J'ai passé un bon moment. Du coup, j'ai lancé l'épisode 2 et l'épisode 2 m'a vraiment conquis, en fait. Donc, j'ai pas encore vu la suite, mais je recommande plutôt.
C'est genre des 20 minutes ou...
Ouais, je crois que c'est 30 minutes max. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé la timeline.
Ok, bon, écoute, pourquoi pas, peut-être que je vais me lancer dedans aussi. D'autant plus qu'il y a une série Ahsoka, c'est Tano, pas Sako. Ahsoka Tano. Il y a la série qui arrive avec Rosario Dawson. Ouais. Il y a aussi Skeleton Crew. Je ne sais plus exactement ce que c'est, Skeleton Crew. C'est pendant l'ère de la République. J'ai une liste là. L'ère de la République, c'est un groupe d'enfants qui est perdu dans la galaxie et qui cherche à rentrer chez eux. Alors ça, aucune idée de ce que ça va donner.
Okay, c'est du live action
Je crois bien, oui, je crois.
Okay.
Il y a The Acolyte. The Acolyte, c'est quoi ? C'est censé arriver déjà en 2023. Tout ça, c'est 2023. Hein. The Acolyte, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je regarde, j'essaye de lire en même temps. Look at the political and personal and spiritual things that came up in a time period that we don't know much about.
Ouais, alors, c'est la Haute République. Donc, c'est un peu la nouvelle... ils essaient de lancer ça, là. Ça fait quelques années maintenant.
C'est 100 ans avant les Skywalker.
Voilà. C'est ça. Et du coup, il y a déjà plein... Il y a quelques romans qui sont sortis, des comics. D'accord. Et c'est un truc qu'ils essaient de lancer pour des films et tout, pour plus tard. Donc, okay. Ça serait un des premiers trucs qu'on verrait là-dessus.
En plus, c'est le showrunner de Russian Doll, une série qui est assez intéressante et qui est très particulière sur Netflix. Donc, peut-être. Il y a évidemment Mandalorian saison 3 qui arrive en février, donc c'est bientôt, si la date n'a pas changé. Andor saison 2 qui arrive en 2004, donc ça arrive aussi en 2024, j'ai dit 2004, et qui sera aussi de 12 épisodes. Et il y a, alors là je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée ou pas, il y a Lando, l'histoire de Lando Calrissian avec Donald Glover. Alors je suis... bon, à voir. Mais tu sais, le truc, c'est qu'avec Andor, j'étais tellement pas convaincu, j'adore,
et oui, c'est vrai.
Que je peux pas, tu vois, à partir du principe que c'est forcément pas bien ce qu'ils vont faire. Donc, bon, on verra. On va voir. Eh ben écoute, je crois qu'on est au bout de ce super laser punch. Merci de l'avoir partagé avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'on... Le prochain, alors là, on disait que Mandalorian, c'est en février. Il y a le summer, le winter, comment, holiday special de Guardians of the Galaxy qui arrive peut-être là en décembre.
Un épisode de Noël, c'est bien ça.
Super, ben on fera ça, on se fera un petit épisode de Noël pour parler de ça. Et puis après, il y a évidemment Quantum Mania en février aussi, je crois. Je ne sais plus, en mars.
Oui, en février. En février, on avait dit.
Février. Donc bon, on reviendra a priori d'ici. Mais ça fait long d'ici Noël, du coup. On n'a rien d'ici avant ça ?
Noël, c'est dans un mois. Je crois qu'il n'y a rien.
Bon, on verra. Soit on fait un truc juste pour papoter, soit on revient autour de Noël pour le Holiday Special. Merci, Johan.
Merci.
J'oublie pas de te demander où on te retrouve sur Internet avant qu'on se quitte.
J'ai failli dire qu'on me retrouve à UNT sur Mastodon. Mais non, mais non. Mais non. Même si j'y suis inscrit, je suis toujours sur Twitter à UNT _.
D'accord. UNT _ sur Twitter. Mais Mastodon, c'est quoi ton instance ? Parce que n'oublie pas que sur Mastodon, il faut dire le nom de l'instance aussi.
Ouais, sur social, évidemment.
Ah, là t'es sur mastodon.social là. Ouais. Toi, tu fais partie des gens qui ont créé un compte avant la prise d'assaut.
En 2017.
Ouais, pareil, très bien. Toi, t'es un vrai. Est-ce que t'as un compte Hive, du coup ?
Oui, j'ai un compte Hive, UNT aussi. Et alors, moi, je lui dis vite fait, mais j'y suis presque actif. C'est-à-dire, je consulte régulièrement et je trouve qu'il y a plus de contenu, alors que je suis abonné à peu près au même nombre de personnes.
Ah ouais ?
Les gens postent plus. Voilà.
Ok, bon, bah écoute, incroyable. Je vais peut-être le relancer, alors. Super, merci à tous. Ah oui, pour ma part, c'est Patrick, un petit peu partout. Rendez-vous tech pour l'actu tech, rendez-vous jeu pour l'actu jeu. Et puis, Super Laser Punch, quand on a des choses dont on veut parler. On vous fait de gros bisous et on se retrouve du coup dans quelques semaines au plus tard, autour de Noël. À très vite. Ciao, ciao.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.